Les traces de sang, Didi le savait désormais, varient en fonction de la vélocité du coup et de la porosité du support. Les éléments de literie, couverture et matelas par exemple, étaient évidemment très souples et poreux, de sorte que les éclaboussures étaient absorbées dès l'impact, au lieu de ricocher ou de former un motif en étoile. De fait, sur le drap blanc n'apparaissait qu'une seule empreinte, celle d'un corps, tout en longueur, pratiquement rectangulaire, avec toutefois deux zones blanches. Alex et elle s'approchèrent pour en examiner les contours.
« Je ne vois pas de brouillard de gouttelettes, » dit Didi à voix basse, comme on en aurait avec une projection à haute vélocité causée par une arme à feu.
La victime n'a pas été tuée par balle. Les traces de sang sont l'indice d'un impact à basse vélocité. Typique des agressions à l'arme blanche, Didi le savait. Elle était tout de même perplexe.
Mais il n'y a absolument aucune éclaboussure. Même pas des dégoulinures qui seraient tombées du manche du couteau ou du fil de la lame. Comment tu expliques ça ?
Le tueur n'a pas poignardé la victime. On ne connaît pas la cause du décès, mais étant donné l'absence de blessures de défense, de jets artériels ou d'éclaboussures, elle était morte avant que l'assassin ne commence à l'écorcher. Je ne suis qu'un humble analyste de scène de crime, pas un spécialiste du comportement, mais je dirais que l'assassin cherche à dominer plutôt qu'à faire souffrir. Ce que nous voyons là est exclusivement le résultat d'activités post-mortem.
Il aurait dû être réconfortant de penser que la victime était déjà morte avant que la lame froide ne s'insinue sous sa peau. Et pourtant, Didi en était quasiment plus horrifié. Qu'un sadique sexuel soit animé du besoin irrépressible d'infliger des sévices, elle pouvait presque le comprendre. Mais ça, un tueur qui dépiautait ses victimes pour le plaisir ?
Et ces zones blanches ? Demanda-t-elle en désignant les deux bandes vierges au milieu du grand rectangle de sang.
Alex sortit un feutre, dont il se servit comme d'une baguette de professeur au fur et à mesure de son explication.
Souviens-toi que la mutilation post-mortem concerne essentiellement le buste et le haut des cuisses. Si tu regardes le motif sanglant, tu verras des traces un peu floues en haut, et ici des empreintes dont je pense qu'elles ont été laissées par les omoplates de la victime, qui appuyaient sur le drap et limitaient sa capacité d'absorption. Donc, si on s'oriente, ici, on a la tête, le torse, les jambes. En conséquence de quoi ?
Les vides se trouvent de part et d'autre des cuisses de la victime.
Laissées par les tibias du meurtrier, j'imagine. En gros, il était à califourchon et ses jambes appuyaient sur le matelas, ce qui a protégé cette partie du drap.
Il neutralise sa victime,
murmura Didi, en essayant de reconstituer la chronologie des événements.
Ensuite, probable qu'il pose son décor. Champagne, menottes, roses. Il aura voulu tout installer avant que ça ne devienne trop salissant.
Alex se retourna et passa son rayon sur la table de chevet, où attendaient bouteilles de champagne et le reste. La lumière ne révéla pas la moindre goutte de sang.
Ça se tient, confirma-t-il. Ensuite, il faut qu'il déshabille sa victime, qu'il mette sa peau à nu.
Il braqua la lampe vers le côté gauche du lit, où Didi découvrit un tas de vêtements foncés. Pantalon de jogging noir, t-shirt des Red Sox.
Une bonne tenue de nuit pour une célibataire. Il la met de côté. Nouveau hochement de tête.
Ensuite, dit Didi en se retournant vers le lit, il grimpe à bord, s'assoit à califourchon sur le corps de la victime et il l'écorche.
Pourquoi ?
Cela fait partie du rituel ? Proposa Alex. Peut-être que l'assassin est en réalité une sorte de nécrophile et que ses instants passés en compagnie du cadavre sont les plus gratifiants pour lui. Les lanières de peau sont fines, et d'après le rapport du légiste sur la première victime, elles ont été détachées avec méthode et précision. Selon son estimation, le tueur a dû consacrer une bonne heure à l'opération, voire deux ou trois.
Du sperme ? Demanda Didi. Des traces d'agression sexuelle ?
Pas pour la première victime. Pour la deuxième, on attend les résultats.
Je ne comprends pas. Il réussit à entrer, neutralise ses victimes. Il les drogue ?
Les tests toxicologiques sont aussi en cours.
Et ensuite, le charcutage. Pendant une bonne heure ?
Et avec une certaine dextérité,
ajouta Alex. Le légiste pense qu'on a affaire à un chasseur, ou à un boucher, pourquoi pas. En tout cas, vu son maniement souple et régulier du couteau, notre tueur a de l'expérience.
Quel type de lame ?
Probablement un petit instrument tranchant comme un rasoir, peut-être même conçu spécialement pour les besoins de l'opération. C'est d'ailleurs l'autre point à prendre en considération. Dans ce genre de crime, le tueur finit souvent par poser son arme. Pour se reposer un instant, tu vois, ajuster sa prise ou même prendre appui pour descendre du lit. Un simple réflexe, un geste accompli sans y réfléchir, mais qui laisse une empreinte de la lame pour les enquêteurs. Sur une scène aussi sanglante où l'assassin a passé beaucoup de temps avec le cadavre, on s'attendrait à trouver ce genre d'indice. Mais, en l'occurrence,
il n'a rien fait de tout cela.
Ou alors, il était suffisamment lucide, suffisamment en possession de ses moyens pour poser l'arme sur une autre tache de sang, à un endroit où il pensait que ça ne laisserait aucune trace.
Didi lança un coup d'œil à son mari. Où il pensait que ça ne laisserait aucune trace, tu dis ? Alex eut un petit sourire. Il s'était retourné vers le drap sanglant. Et le nez dessus, il l'éclairait de sa lampe.
Dans ce genre d'agression, où la victime saigne par des plaies multiples sur une durée prolongée,
on peut dire ça comme ça.
On retrouve des traces de sang en surimpression. En séchant, le sang s'épaissit et les bords de la tache jaunissent à mesure que l'hémoglobine se sépare des plaquettes. Le sang séché forme alors une surface sur laquelle le sang frais va venir goûter.
Didi visualisait presque la scène. Autrement dit, si l'assassin a posé un couteau couvert de sang frais sur une zone de sang séché, il a pu laisser une empreinte.
Tu as tout compris.
Et dans le cas présent ? Alex, le visage à peine à quelques centimètres de la surface raidie et croûtée de rouge.
Il me semble distinguer les contours d'un objet. C'est à peine visible, mais c'est là. Je parierais pour un couteau de cuisine, mais honnêtement, c'est parfois difficile de faire la différence entre ce qu'on a envie de voir et ce qui est vraiment là. On pourra affiner au labo, augmenter le contraste par des procédés chimiques. Ça vaut sûrement le coup de creuser la piste.
Certainement, convint-elle. Alex se remit à scruter le drap d'un air absorbé. Didi l'imita, pour ne pas être en reste. Mais les nuances de ce dégradé de rouge lui échappaient. À vrai dire, elle était surtout prise à la gorge par l'odeur fétide du sang. Il y en avait tellement, sur ce drap, sur le matelas. Et malgré cela, songea-t-elle en se retournant, rien dans le reste de la pièce. Alex suivit son mouvement et balaya une nouvelle fois les murs et le sol avec sa lampe avant qu'il ne s'intéresse à la dernière phase du meurtre.
Il a nettoyé, constata Didi. Pas de doute là-dessus.
Il fit danser le faisceau en lents mouvements autour du lit, éclairant les traces de pattes. Une autre grande trace de transfert près de la porte de la chambre, semblable à celle du palier. Lily s'était aussi couchée là.
« La chienne n'a pas aboyé ?» demanda Didi. Personne ne l'a entendue.
« Et pourtant, elle était stressée », fit remarquer Didi en montrant les empreintes qui témoignaient de ses allées et venues.
« Stressée, mais peut-être surtout désorientée. Aussi étrange que ça puisse paraître, rappelle-toi que ça n'a pas été une agression violente. En tout cas, rien n'indique que le tueur soit entré par effraction, ni qu'il ait maîtrisé sa victime par la force. Tout s'est passé de manière feutrée. Même la mutilation post-mortem. Il devait être à cheval sur le corps. Pas de cri, pas de résistance, pas de signe extérieur de la souffrance de la victime.
Didi frissonna malgré elle. Il avait un plan, reprit-elle à haute voix pour se recentrer sur l'enquête. Il l'a mis à exécution. Et ensuite ?
Ensuite, il a fait le ménage derrière lui.
C'est là que je bloque, dit Alex, l'air soucieux.
Même si ce n'est pas une scène désordonnée, vu qu'il n'y a pas eu de course-poursuite ni de ligotage, avec la quantité de sang qui s'est écoulée du corps de la victime et qui a imbibé le matelas, les mains et les avant-bras du meurtrier devaient en être couverts, sans parler de ses jambes, puisqu'il était assis sur le corps, et ses pieds. Le sol devrait être un cas d'école pour la morpho-analyse des traces de sang. Même s'il n'est pas constellé d'empreintes de chaussures, d'éclaboussures, etc.,
On devrait au moins voir des traces montrant qu'il s'est essuyé. Alors pourquoi ce n'est pas le cas ?
Didi voyait ce qu'Alex voulait dire. Elle comptait une bonne douzaine de traces de la chienne qui avait tourné en rond. Point final.
Il s'est lavé dans la salle de bain ? Envisagea Didi. Il a pris une douche ?
Je suis sûre que Phil a demandé au technicien de faire des prélèvements dans les siphons de la douche et du lavabo pour y chercher des sécrétions corporelles.
Je n'en doute pas. Mais comment le tueur y serait-il allé ? Par lévitation.
Alex fit courir son rayon entre le lit et la porte de la salle de bain. Pas l'ombre d'une tache sur le parquet. Il éclaira également la poignée de porte en cuivre. Là non plus. Aucune souillure. Enfin, pour être complet, il passa le rayon sur le sol en lino craquelé, la baignoire blanche fatiguée, le lavabo sur colonne, les toilettes. Rien de rien.
Un détergent spécial ? Proposa Didi.
Il aurait frotté jusqu'au dernier centimètre carré avec une brosse à dents et de la javel ?
C'est possible, mais quel est le pourcentage de chance ?
Le scepticisme d'Alex se lisait sur son visage. Comme Didi l'avait fait observer, il est quasi impossible de supprimer toute trace de sang. Ce qui expliquait que des criminologues puissent bâtir toute leur carrière sur les indices laissés par des assassins, pourtant malins, qui avaient lessivé les murs à la javel mais oublié le loquet de la fenêtre, ou d'autres qui s'étaient décapé l'épiderme au gant de crin mais avaient omis le cadran de leur montre. Les criminels ne peuvent nettoyer que ce qu'ils voient. Alors que grâce à des équipements comme les lampes à haute intensité ou des produits chimiques tels le luminol, les enquêteurs passent pour ainsi dire chaque scène au rayon X.
Une nouvelle idée germa dans l'esprit de Didi. Et si on considérait ça sous un autre angle ?
Nous avons un tueur, qui non seulement est entré sans se faire remarquer, mais qui est ressorti de la même façon. Sauf qu'à la sortie, il aurait dû être débraillé et couvert de sang après son petit atelier boucherie. Alors comment a-t-il dissimulé tout cela ?
Alex haussa les épaules. La réponse la plus évidente serait qu'il a pris une douche après son forfait, comme tu l'as suggéré. Il nettoie toutes les traces de sang, passe une tenue propre et ressort par la grande porte, ni vu ni connu.
Sauf que, tu l'as dit, on verrait des traces entre le lit et la salle de bain, et ensuite sur le lino, dans la douche et le lavabo.
Je me demande, et s'il avait été nu ?
Et si après avoir maîtrisé sa victime et avant de passer au clou de la soirée, il avait retiré ses vêtements.
Prudent. Le sang part plus facilement sur la peau que sur les vêtements.
J'ai aussi remarqué qu'aucune serviette n'a l'air de manquer à l'appel dans la salle de bain. Il y a un essuie-main dans l'anneau mural et deux draps de bain sur le porte-serviette. Alors s'il s'est douché ici, avec quoi s'est-il séché ?
Alex hocha la tête, pensif.
Tant qu'à apporter ses accessoires pour le meurtre, continua Didi. Il a peut-être aussi fourni le matériel de ménage. Il est venu avec quelques serviettes, peut-être même un tapis de bain pour protéger le sol à côté du lit. Tu vois cette trace là ?
Elle désignait la seule et unique trace d'essuyage près de la table de chevet.
Il étale le tapis de bain, retire ses vêtements, monte sur le lit faire ses petites affaires. Ensuite, il redescend sur le tapis, s'essuie avec sa serviette, remet ses vêtements propres, chaussettes, chaussures. Ne reste plus qu'à rouler le tapis avec la serviette ensanglantée, le couteau et tout le toutim bien au chaud à l'intérieur. Il fourre le tout dans son sac de voyage et roule ma poule. En tout cas, ça expliquerait l'absence de traces de sang dans le reste de la maison, y compris dans la salle de bain.
Plus que prudent, notre assassin, corrigea Alex.
Rusé. Expérimenté, souligna Didi. Ce n'est pas ce que disait le légiste ? Ce type sait ce qu'il fait. Et il maîtrise ses moindres faits et gestes, du début à la fin. Ce n'est pas ici qu'on trouvera des réponses comme par magie.
Alex alluma une lampe de chevet, éteignit sa torche. Je n'en suis pas si certain. Se déshabiller diminue peut-être le risque de laisser des traces de transfert, mais ça augmente les chances de semer des poils, des fibres, des traces ADN.
C'est juste.
Et ça laisse entière la question de savoir comment il a neutralisé ses victimes. Quand le légiste y aura répondu, ça nous fera une piste supplémentaire.
Quittant la chambre, ils reprirent le couloir
vers les escaliers. « J'en ai marre d'être une éclopée !» dit Didi en fixant les marches depuis le palier. « Je sais. J'en ai marre de me sentir aussi faible et inutile. Je veux me remettre au boulot, traquer cet assassin. Tu as retrouvé la mémoire ? Tu veux savoir si je me souviens de ce qui m'a pris de vouloir descendre les escaliers la tête la première ? Ou de tirer 3 fois dans le mur ? » Elle secoua la tête. « Tu as fait progresser l'enquête ce soir. » « Pas à titre officiel. Officiellement, je suis une enquêtrice qui est retournée toute seule sur une scène de crime et qui a peut-être fait usage de son arme sans motif valable. En l'état actuel des choses, je représente une menace pour le service et nous savons, toi et moi, que même si mon bras guérissait par miracle du jour au lendemain, on ne me rendrait pas ma plaque comme ça. Je suis une question sans réponse et la police a horreur de ça. » « C'est vrai, tu es une question sans réponse. » reconnut Alex en s'approchant d'elle. « Merci du réconfort. » Il la regarda d'un air pensif. « Mais tu sais quoi ? Tu es plus que ça. » « Une policière sensationnelle, une épouse parfaite, une mère aimante. N'hésite pas à te lâcher sur les compliments. Melvin commence vraiment à me taper sur le système et un peu de pommade lénifiante ne me ferait pas de mal. » En fait, je pensais davantage à la façon dont les enquêteurs répondent aux questions. Ou plutôt à la façon dont je réponds aux questions. Elle ouvrit de grands yeux. « Tu es criminologue ?»« Précisément. J'analyse les scènes de crime. Or toi, Didi, avec ton épaule, ton bras, tes blessures, tu es une scène de crime. Mieux encore, tu es la seule scène de crime que notre tueur n'a pas maîtrisée. »